En guise de dernier cours, bon, je ne voulais pas faire un cours complet, déjà couvert beaucoup de sujets différents dans mes cours et puis les orateurs du séminaire également. Donc je voulais juste faire peut-être un bref bilan de ce qu'on a vu et puis essayer de répondre à une question, enfin, une agglomération de questions que j'ai reçues. Et puis ensuite, vous donner la parole pour voir s'il y a d'autres questions, d'autres points que vous souhaiteriez discuter. Et sachant que Thierry Coquand et d'autres sont les bienvenus aussi pour répondre à ma place si les questions sont trop difficiles. Donc le bref bilan. Donc effectivement, on est parti de la correspondance de Curie-Howard telle que esquissé par Curie dans son livre à la fin des années 50, et puis formulé clairement par Howard dans son célèbre manuscrit 1969. Et c'est vrai que j'avais complètement occulté le fait que ça fait 50 ans. Est-ce que ça a inconsciemment joué dans mon choix de ce sujet, sachant que c'est aussi l'année de mes 50 ans à moi? Je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose d'un peu freudien là, mais en tout cas, le sujet s'était imposé à moi pour ce premier cours au Collège de France et je ne le regrette pas. Et donc effectivement, cette idée qu'on peut voir les propositions de la logique intuitionniste comme les types du lambda calcul simplement typés et que du coup, les termes, les programmes fournissent des démonstrations, les termes de preuve pour la logique, et la réduction, l'exécution du programme correspond à la normalisation de la preuve, l'élimination des coupures. Et Curie avait juste regardé le fragment implicatif, et Howard montre que ça fonctionne également pour d'autres connecteurs logiques. Et donc ce qui est assez remarquable, c'est que ça se distingue radicalement de l'approche proposition égale programme, qu'on a vu déjà un peu, par exemple, le lambda calcul de Church, les lambda termes, c'était les propositions, et puis qui va se développer justement dans les années 70 sous la forme de la programmation logique, d'accord, où le programme, c'est un énoncé, c'est une proposition, un énoncé d'existence essentiellement, et l'exécuter, c'est voir si cet énoncé est satisfait ou non. En revanche, ce Curie-Howard implémente, si j'ose dire, l'interprétation Brewer, Haitink, Kolmogorov de la logique intuitionniste, l'idée qu'une proposition est vraie en logique intuitionniste s'il existe une justification, une construction, un terme de preuve, allons dire aujourd'hui, qui la justifie. Et ce terme de preuve, c'est justement un lambda terme. Enfin, c'est ce que dit Howard dans son papier. Alors après, comme l'a rappelé Thierry sur la naissance du calcul des constructions, il y a eu toute une série d'enrichissements des types et des propositions pour représenter plus de choses, du polymorphisme, pour représenter des types dépendants, les notions d'égalité, et puis aussi une unification syntaxique entre les termes et les types, d'accord. Cette fois-ci, ce n'est plus la syntaxe qui les distingue, c'est plutôt des univers qui contrôlent qu'est-ce qui peut être interprété comme terme, qu'est-ce qui peut être interprété comme type, mais du coup, on a des types de types et des types de types de types, et ça devient beaucoup plus riche. Et on obtient ces formalismes unifiés pour programmer et raisonner la théorie des types de Martinov, le calcul des constructions, les pure type systems. Et effectivement, j'ai très peu parlé des travaux de Brown sur automates, mais ça rentre aussi dans cette énumération. Et je suis content que Thierry ait rappelé les travaux précurseurs de Brown là-dessus. Donc on obtient ce qu'on pourrait appeler la correspondance de Curie-Howard, de Brin, Girard, Martin Löf et peut-être quelques autres. Donc non seulement on a une théorie des types plus riche, avec en particulier des types pi et des types sigma qui permettent d'interpréter les quantificateurs pour tout il existe, des types d'égalité, d'identité, pardon, qui permettent d'interpréter l'égalité. Donc on a des logiques plus riches et, grâce à des types plus riches, mais il y a aussi, en tout cas assez forte, présent de manière assez forte chez Martin Löf, l'idée qu'on va pouvoir refonder les mathématiques là-dessus, avoir une espèce de théorie des types intuitionniste, donc qui, sur des bases intuitionnistes et en reprenant un peu les idées de la théorie des types d'origine de Russell, donc qui l'idée que les types évitent les paradoxes dans la théorie des ensembles, d'accord. Donc l'idée aussi que on a ici une réinterprétation, peut-être une meilleure interprétation, une meilleure définition, pardon, d'un certain nombre de concepts familiers en théorie des ensembles. Sachant que, bon, il y a aussi des choses en plus. Les théories des ensembles n'ont pas de notion de type, n'ont pas de notion de preuve d'égalité, ont beaucoup moins de structure. Bon, donc ça, c'est peut-être ma manière un peu maladroite de dire les choses. Et puis je suis tombé sur un charmant transparent de Emily Riehl, dans l'exposé qu'elle a donné récemment à la conférence en mémoire de Vladimir Voïvodski, où elle parle de la correspondance de Curie-Howard-Voïvodski. Et là, j'ai vraiment repris son transparent. Et l'idée que, en fait, toutes ces notions de théorie et des types ont fait une troisième interprétation, non pas juste en théorie des comme notion sur les ensembles ou comme logique intuitionniste, mais aussi en termes de théorie de l'homotopie. Et donc, par exemple, un type qui est un ensemble, c'est une proposition, c'est un espace avec des propriétés topologiques dessus. Un élément, c'est un X de type A, c'est un point, etc., etc. Et quand même, c'est classe de pouvoir dire fibration au lieu de prédicat. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup ce transparent qui est dû à Emily Riehl pour ce côté justement très, très, très. On met en correspondance des mondes avec des vocabulaires différents et des pratiques différentes. Après, alors parmi les choses donc qu'on a vues dans le cours, et d'ailleurs Thierry en a reparlé un peu aujourd'hui, donc il y a l'aspect type et prédicat inductif, qui est vraiment un mécanisme extrêmement général pour définir des choses. Donc définir des types de données engendrées par les constructeurs, définir des prédicats engendrés par des axiomes et des règles. Donc au lieu de partir d'un ensemble fixe, et des prédicats et des connecteurs logiques d'ailleurs. Et donc, au lieu de partir, par exemple, d'une algèbre donnée de connecteurs logiques, on peut définir les siens. Et on obtient également de quoi définir des fonctions récursives, des démonstrations par récurrence et par analyse de cas. Donc, tout ce qu'il faut pour travailler avec. Alors après, ça s'étend dans en fait, deux directions. J'en ai noté qu'une. Donc, il y a la direction vers la co-induction et les co-données, donc des structures de données qui sont infinies, donc qui ne sont pas inductives à strictement parler, mais sur lesquelles on peut quand même raisonner par des principes de co-induction, et qu'on peut, enfin la tendance moderne étant de les présenter non pas par leurs constructeurs, mais plutôt par leurs observations, par leurs destructeurs. Donc il y a ce côté un peu dual qui fait un peu mal à la tête, mais qui d'un autre côté est aussi très satisfaisant. Et puis l'autre direction d'extension que j'aurais pu mettre là-dessus, c'est justement celle des types inductifs d'ordre supérieur, les higher inductive types, dont Thierry a brièvement parlé un peu plus le mois dernier, où là, un type, il est défini non seulement... Enfin, on a des constructeurs qui non seulement décrivent les valeurs du type, mais également des égalités supplémentaires qui s'appliquent sur ce type. Alors, un sujet qu'on a abordé dans un seul cours, qui en mériterait sans doute davantage, c'est les liens avec la logique classique. Pourquoi toutes ces choses qu'on a, de théorie des types sont très intuitionnistes par nature ? D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut en plus pour avoir la logique classique, qui est sans doute plus familière pour les mathématiciens. Là aussi, on a de belles correspondances entre type et preuve, type et proposition, terme et preuve. Les traductions par double négation, donc, qui permettent d'exprimer de la logique classique dans une logique intuitionniste, qui correspondent, au moins pour certaines, aux traductions par passage de continuation, qui ont été réinventées en informatique 20 ans plus tard pour faire tout à fait autre chose. Et puis, correspondance entre les lois classiques, comme l'axiome du tiers exclu ou l'axiome d'élimination de la double négation, et les opérateurs de contrôle, comme le call CC de Scheme. Donc ça, c'est un peu une correspondance découverte a posteriori, mais qui est extrêmement satisfaisante pour l'esprit. Alors, en revanche, je trouve qu'il y a encore des questions ouvertes là-dessus. La réponse ne semble pas complète. Autant, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que le contenu calculatoire d'une preuve intuitionniste est un lambda terme. D'accord. Autant, personne n'est vraiment d'accord pour dire quel est le bon formaliste de calcul qui exprime le contenu calculatoire d'une démonstration classique. D'accord. Alors, on a vu des morceaux, donc on peut prendre le lambda calcul plus call CC. On peut faire des lambda calculs symétriques. Où on a au moins deux lieurs, lambda et mu, et on peut réduire de manière entrelacée des réductions. On peut faire ça avec des machines abstraites, comme le fait Jean-Louis Krivine dans sa théorie de la réalisabilité classique. On peut faire des calculs de processus. Après tout, tant qu'à entrelacer des calculs, autant aller chercher un formalisme adapté, d'accord. On peut faire des réseaux d'interaction, les réseaux que Girard utilise pour la logique linéaire. Il y a plein de formalismes, mais pas encore de conclusions très nettes. Alors oui, un autre point sur lequel je voulais revenir et que Thierry a mentionné, c'est l'aspect transformation de programme et de démonstration. Donc transformation de programme, c'est le quotidien de l'informaticien. D'accord, on prend des programmes d'un langage L1 et puis on les transforme mécaniquement, on les réécrit dans des programmes équivalents d'un autre langage L2. C'est ce que font les compilateurs tout le temps. D'accord, bon, ben, c'est des langages de haut niveau au code machine exécutable. On passe par plein de petits langages intermédiaires et on traduit mécaniquement. Mais c'est aussi une technique standard de sémantique. Pour donner des sémantiques, par exemple, donner la sémantique de call CC, on le fait d'un opérateur de contrôle, on le fait par transformation, par continuation, dans un calcul qui n'a pas d'opérateur de contrôle. C'est une technique de programmation. D'accord, si vous voulez faire des effets de bord en Haskell, par exemple, ben vous allez utiliser une monade, qui est une forme de transformation de programme faite à la main. Vous allez manuellement transformer votre programme. Ou si vous voulez utiliser des continuations dans un programme écrit en coq. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on peut aussi, dans l'esprit de Curie Ward, faire des transformations de propositions et de démonstrations d'une logique L1 vers une logique L2. Et les traductions par double négation, c'est un exemple précurseur, d'accord, ça date des années 30, il me semble, 30 ou 40. Non, pardon, non, donc Kolmogorov, c'était 1925, et Gödel, c'était des années 30. Bien avant qu'on écrive des compilateurs, Gödel et Kolmogorov faisaient déjà de la compilation. Et puis, on a vu d'autres exemples, cette fois-là beaucoup plus récents et plus inspirés, je pense, par l'informatique, donc sur le forcing intuitionniste, la théorie l'encodage de la paramétricité à la manière de Bernardi et ses co-auteurs, où c'est une traduction du type qui vous donne la propriété de paramétricité, et c'est une traduction d'un habitant du type qui vous donne la preuve que le principe de paramétricité est vrai. Les modèles syntaxiques, internes, dont a parlé Thierry aussi, dans l'équipe de Nicolas Tabarro, et je pense encore bien d'autres applications dans le futur. Alors maintenant, parlons des choses qui peut-être marchent moins bien, ou rentrent peut-être moins bien dans un cadre logique. Il y a tout ce qui tourne autour des effets en programmation. Donc, on a beaucoup parlé de la mutabilité, le fait de modifier en place les structures de données, de faire des affectations sur des variables. Mais en fait, il y en a bien d'autres. Il y a tout ce qui est exception, interruption du contrôle, opérateur de contrôle. Même la partialité, le fait de pouvoir écrire des fonctions récursives générales qui ne terminent pas toujours, peut être vu comme un effet. Et puis, il y a tout ce qui est communication, comment les programmes font des entrées-sorties, comment on fait du parallélisme à mémoire partagée, avec communication à travers la mémoire partagée, comment on fait du parallélisme par passage de messages, etc. Donc, tout ce qui est communication entre programmes. Alors, bien sûr, on a un formalisme un peu unificateur, qui est celui des monades. Donc, c'est bien, on est content. Après, c'est un formalisme qui ne dit pas grand-chose, d'accord ? Et en particulier, qui n'a pas vraiment de correspondance du côté logique, si ce n'est une vague correspondance avec une modalité, avec des modalités en logique modale. Mais encore une fois, on n'a pas une théorie très générale qui fait que tout ce qu'on sait se dire sur la mutabilité s'applique automatiquement aux communications entre processus. Hein, ce n'est pas du tout le cas. Alors les effets algébriques, les gestionnaires d'effets, c'est une représentation un peu plus précise de certains effets, mais pas tous. Donc ça fonctionne très bien, par exemple, pour unifier exception, contrôle délimité et mutabilité, mais ça ne s'applique pas aux continuations dans toute leur généralité, par exemple. Et puis, d'un autre côté, on a aussi des logiques de programme pour raisonner là-dessus, donc des logiques un peu ad hoc qui nous aident pour raisonner sur certains effets, la logique de Hoare ou les logiques de séparation sur tout ce qui est mutabilité, modification en place. Mais encore une fois, ce sont des logiques à chaque fois spécifiques à un effet particulier. Donc là, je pense que la grande unification entre programmation et logique n'est pas encore là, même si je pense qu'il y a quand même des idées. Et puis, dernière chose qu'on a vue un peu en passant dans plusieurs cours, ce sont des outils pour la sémantique. C'est des outils plus ou moins inspirés par la logique, mais qui nous aident à donner de la sémantique au langage de programmation et à donner un sens au programme. Par exemple, les relations logiques, donc qui nous permettent de donner des sémantiques à des types, comme des ensembles de termes, ou de relier deux programmes qui ont le même, deux termes qui ont le même comportement. Et donc les relations logiques et comment on les indice pour qu'elles soient bien fondées, donc soit par des types, soit par des comptes de pas, le step indexing. Et puis, un sujet qui est revenu plusieurs fois, en fait, et auquel j'ai donné le nom de topos des arbres, parce que c'est le nom que Lars Birkedal utilise, et donc cette modalité plus tard. D'accord, donc on prend un objet de type usuel, on ajoute cette modalité plus tard, et puis on peut l'interpréter comme des, comme des suites de type, en fait, indexées par le temps, et qui permettent de construire des objets sémantiques, qui permettent de construire des programmes réactifs par récursion gardée. Donc voilà, donc c'est à peu près les grandes disons, directions qu'on a explorées, ou au moins effleurées, pendant ce cours. Après, il y a plein d'autres choses hein, qui manquent, dont on a très peu parlé, ou alors si un peu, mais plutôt dans les séminaires, par exemple, bah, justement autour des logiques modales, aussi tout ce qui tourne autour de la logique linéaire, qui a été mentionné dans les séminaires de Guillaume Munch, Macagnoni, et puis de Christine Tasson. Bon, donc le sujet est très loin d'être clos, évidemment. Et alors maintenant, pour les questions, donc, honnêtement, je n'ai pas reçu grand-chose par courrier électronique, mais bon, en discutant avec certains d'entre vous, j'en ai identifié une que j'ai un peu agglomérée, disons, ou un peu généralisée. Et la question est la suivante. Curie Award fait-il de moi un meilleur programmeur ? Après, il y a aussi la question symétrique. Curie Award fait-il de moi un meilleur mathématicien ? Et ça, je ne vais pas me permettre d'y répondre, même si Asiam Aboubi, par exemple, dans son séminaire, sur la mécanisation des mathématiques, je pense à donner des pistes tout à fait intéressantes. Donc, Curie Award fait-il de moi un meilleur programmeur ? Alors, enfin, de moi et de vous. Hein. Et donc, encore une fois, on ne parle pas uniquement de gens qui programment en Haskell ou en Camel toute la journée. D'accord, moi, même moi, j'ai écrit beaucoup de code en C, j'ai fait du Java quand j'étais un peu dans l'industrie, j'ai écrit en assembleur. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut apprendre ou retenir ? Alors, la première chose que je retiens, c'est la primauté de la programmation fonctionnelle pure, totale. Alors primauté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, mais ça veut dire qu'on commence par ça, c'est ce qui vient en premier. À la base de tout programme, pour moi, il y a une collection de fonctions pures, donc sans état, et totales, qui terminent toujours. Et c'est d'une certaine manière des briques de base sur lesquelles on va ensuite construire des choses beaucoup plus compliquées avec peut-être des interfaces avec des bases de données, avec des interfaces utilisateurs, avec des communications réseau, avec des choses qui ne rentrent pas du tout dans ce cadre. Mais il faut commencer par les briques de base. Et je pense que de même, au cœur de tout langage de programmation, il devrait y avoir un langage fonctionnel pur, donc sans état, de préférence typé, parce que c'est quand même plus fiable, et de préférence garantissant la terminaison. Alors c'est loin d'être le cas, d'accord, essentiellement à part AGDA et Coq, ça n'existe pas, parce que même Haskell, par exemple, a la non-terminaison dès le départ. C'est de la récursion générale. Et puis Camel a, dès le départ, un peu de programmation impérative en plus. Bon. Et donc, il faut déjà une certaine discipline, même en Camel ou en Haskell, pour programmer dans ce noyau, et puis encore plus en Java ou en C. Mais je pense qu'on peut y arriver, et ça vaut la peine de se forcer à le faire. Parce que ces fonctions pures qui terminent toujours sont à la fois des programmes, mais ce sont aussi des définitions mathématiques. D'accord, on peut raisonner directement dessus, il n'y a pas besoin de logique de programme, pas besoin de logique de OR, de préconditions, de postconditions, de choses. C'est juste isomorphe à une définition mathématique. Et ça, ça se voit très bien en Coq, par exemple. Où écrire une fonction pour qu'elle s'exécute et écrire une fonction pour prouver les choses dessus, c'est la même chose. D'accord, c'est la même fonction qu'on écrit. Alors, quand on est pur et total, on peut avoir un typage statique avec des types très très riches. Des types dépendants, des équations comme dans les HIT, comme les types inductifs d'ordre supérieur, etc. Alors que, par exemple, dès que vous avez de la non-terminaison, tous les types sont habités, et puis dès que vous avez des effets de bord, vos types dépendants, ils ne veulent plus dire grand-chose. Donc, voilà. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus loin sur le typage. Et puis, ça permet aussi au langage d'exprimer des termes de preuve. Et donc, à l'intérieur du langage, il y a forcément une logique et à la Curie Award et avec des termes de preuve. Et dès que vous avez un programme qui ne termine pas, d'accord, il habite tous les types, et du coup, votre logique, elle ne veut plus dire grand-chose. Alors maintenant, bon, quand même, dans la vraie vie, on a souvent besoin d'écrire des programmes partiels, enfin avec de la récursion générale ou des boucles dont on n'est pas certain qu'elles terminent. Alors il y a de mauvaises raisons pour ça, d'accord. Il y en a une raison, c'est qu'il faut être Turing complet. Un langage qui n'est pas Turing complet, qui garantit la terminaison, c'est pas bon. C'est pas vraiment vrai, d'accord. Tous les calculs utiles sont probablement, on peut démontrer qu'ils terminent, d'accord. Les seuls calculs, et du coup, on peut déjà les exprimer dans système F, enfin dans les systèmes très simples. Pour obtenir des calculs intéressants mais non probablement terminants, il faut diagonaliser, d'accord. Typiquement, l'algorithme qui vérifie la terminaison. Si on le diagonalise, on peut exhiber un programme qui va toujours terminer, mais qui ne sera pas prouvé dans la même logique comme terminant. Bon, mais donc aucun intérêt pratique. L'autre mauvaise raison, c'est mais il y a des programmes qui ne doivent pas terminer. Un serveur web ne doit pas terminer. D'accord, s'il termine, c'est qu'il plante. Et en fait, si, c'est pour chaque requête envoyée au serveur web, la réponse doit arriver dans un temps fini. Donc ça, c'est une généralisation de la terminaison qui est la productivité. D'accord, le programme est réactif, mais à chaque action, il y a une réaction en temps fini. Alors, les bonnes raisons pour être obligé de faire de la partialité ou de la récursion générale, c'est que démontrer la terminaison d'un algorithme peut être difficile. D'accord, peut même être arbitrairement plus difficile que de démontrer sa correction partielle. S'il termine, alors le résultat est bon. Sachant que pour beaucoup d'applications, la correction partielle suffit. Alors, je pense pour votre serveur web, vous voulez savoir qu'il est réactif. Mais je sais pas, un calcul batch, un compilateur, mon exemple favori, bon, bah, s'il ne termine pas, s'il ne produit pas de code exécutable, bah, c'est bien dommage, mais enfin, personne ne va être vraiment lésé. Et donc, non seulement démontrer la terminaison de l'algorithme peut être difficile, mais maintenant, coder l'algorithme dans un langage normalisant, fortement normalisant, peut l'être encore plus, parce que, en fait, dans le programme, il va falloir exprimer sa preuve de terminaison aussi, d'une certaine manière. Et cette preuve, elle peut être exponentiellement ou tour d'exponentiellement plus grosse que le programme lui-même. C'est des cas pathologiques, mais quand même. Donc voilà des raisons pragmatiques pour lesquelles on sort déjà de ce cadre de calcul pur. Et alors après, bien sûr, terminer, c'est bien, mais on voudrait aussi avoir des garanties plus fortes aussi parfois. Donc parfois terminer, c'est une contrainte trop forte, et puis parfois, c'est une garantie trop faible. Il y a plein de cas où on veut garantir le temps d'exécution dans le pire cas, d'accord ? Donc non pas ça termine, mais ça termine en 10 millisecondes. Ça, c'est dans tous les systèmes embarqués réactifs de contrôle-commande. Ou garantir une complexité asymptotique. D'accord, on termine, mais en temps linéaire, en l'entrée ou quasi-linéaire. Alors, même chose pour l'impératif. D'accord, pourquoi programmer un impératif avec des données mutables? Alors, il y a de mauvaises raisons. Hein, un algorithme, c'est une recette de cuisine, ça marche comme ça. D'accord, tous les algorithmes fonctionnent par transformer un état par étape. En fait, non, c'est juste la manière usuelle de les présenter. C'est juste parce que les Communications of the ICM, dans les années 60, on dit bon, tous les algorithmes qu'on publie devront être écrits en ALGOL 60. Et l'autre mauvaise raison, c'est comme ça que fonctionne le matériel. Alors c'est vrai, la mémoire, les registres, ça marche comme ça, mais c'est pas, quand on programme, on s'éloigne très très vite du matériel, et en particulier si vous saviez exactement comment fonctionne la mémoire de votre ordinateur, vous seriez avec tous les caches, les machins qui se communiquent, qui s'invalident, les lectures anticipées, les écritures retardées et tout, vous seriez horrifié, d'accord. Donc déjà, même la programmation impérative usuelle est déjà une abstraction sur ce que fait le matériel. Alors, les bonnes raisons, ou les raisons qui nous forcent à faire de la programmation impérative, c'est que beaucoup des meilleurs algorithmes connus utilisent de l'état mutable. D'accord, si on essaye, on a des algorithmes fonctionnels équivalents, mais plus lents, au moins généralement d'un facteur log n, puis avec une grosse constante aussi. Alors, ce n'est pas toujours vrai. Parfois, on a des algorithmes purement fonctionnels qui sont compétitifs avec les algorithmes impératifs, et c'est super, mais ce n'est encore pas le cas pour tous les problèmes, et il y a peut-être même un résultat un peu méta d'impossibilité là-dessus. Puis l'autre bonne raison, c'est si on fait de la programmation système de bas niveau, là on est bien obligé de se cogner ce que fait le matériel. Alors les médiations, les synthèses un peu entre ces contraintes. Alors un cas qui marche très bien, c'est quand on peut encapsuler un état mutable dans une interface pure. D'accord, ça s'appelle les structures de données persistantes, par exemple. Voilà, la mutation est utilisée pour avoir la bonne efficacité algorithmique, mais l'interface, la manière dont les utilisateurs pensent la structure de données, est purement fonctionnelle. Et puis l'autre, c'est donc la direction que Guillaume Mouche-Macagnoni avait esquissée dans son exposé au séminaire, qui est de mieux contrôler la mutabilité, en particulier par de la linéarité. L'idée, c'est que si vous avez des structures de données mutables mais non partagées, donc vous savez exactement à chaque fois qui peut modifier, d'accord, ben c'est presque comme avoir un argument supplémentaire et puis produire un résultat supplémentaire. D'accord, donc c'est presque de la programmation fonctionnelle. Là où les choses deviennent très difficiles, c'est quand il y a du partage. D'accord, quand deux morceaux non, a priori non reliés à votre programme peuvent accéder à la structure de données mutables. Et en situation de parallélisme, c'est là qu'on a les data races, d'accord, ce bug de programmation parallèle qui fait qu'on est en train de modifier en compétition la même structure de données. Et donc là aussi, il y a beaucoup de techniques de typage et de logique de programme qui permettent de contrôler cette linéarité et ce partage, ou l'absence de partage, donc les logiques de séparation, les types de possession, ownership types, et vous pouvez voir ça par exemple dans le langage Rust. Et puis pour finir, il y a quelque chose qui est complètement absent, je pense, en tout cas du cours que j'ai fait cette année, c'est tout ce qui est programmation à grande échelle. D'accord, et quel mécanisme pour ça? Alors, certains disent que c'est des objets, c'est des classes, c'est de l'héritage, d'autres disent que c'est des modules et des foncteurs, d'autres disent que c'est des composants logiciels, d'autres disent... Donc, chacun a son mécanisme favori. Alors après, il y a aussi parfois un peu de mauvaise foi. Hein, je pense que la programmation orientée objet a été un peu survendue, avec par exemple... l'affirmation que, mais si, c'est comme dans la nature, d'accord, une vache qui est un mammifère c'est un animal c'est ceci, donc cette classification aristotélicienne de la nature se reflète bien sûr sous la forme d'une hiérarchie de classes, bon c'est tout à fait faux. Un autre problème aussi que j'aime pas beaucoup dans la programmation orientée objet habituelle, c'est l'idée que tout code doit être extensible. Donc, on doit pouvoir faire de l'héritage et de la redéfinition de méthodes pour le changer a posteriori. Et parfois, c'est utile, mais très souvent, on n'a aucun besoin de faire cette extensibilité a posteriori sur du code. Et puis, elle nous coûte très cher en termes de... Le programme devient beaucoup plus difficile à écrire et à comprendre. Alors, les bonnes raisons pour faire, en revanche... de l'objet, des modules, des composants, etc., ben, c'est tout ce qui est réutilisation, réutiliser du code, et puis on peut espérer réutiliser sa vérification, que ce soit par le test ou par la vérification formelle. Alors en faisant un petit peu attention quand même, donc Ariane 501 a explosé parce qu'ils ont réutilisé un composant de la fusée Ariane 4. Ils l'ont mis dans une fusée qui avait des caractéristiques physiques différentes, sans vraiment retester ou sans retester suffisamment. Donc tout ce qui est décomposition modulaire et barrière d'abstraction, c'est une très bonne manière de programmer, donc décomposer le programme en morceaux compréhensibles et qui se défendent un peu les uns vis-à-vis des autres, un peu défensifs, donc qui ne partagent pas tout, qui ont des interfaces bien définies. Et là, il y a les mathématiques, sont une belle source d'inspiration, donc tout ce qui est structure algébrique, hiérarchie de structure algébrique. Et puis on a l'impression qu'on a des mécanismes au moins de base, qui sont bien compris, justement, et y compris en termes logiques, en termes de système de type. Donc il y a l'abstraction par rapport à un paramètre, c'est l'abstraction de fonction. Il y a l'abstraction par rapport à un type, on peut voir ça plus ou moins comme la quantification existentielle. Il y a le polymorphisme paramétrique, donc plutôt l'abstraction par rapport à un type, qu'on peut voir comme le pour-tout. Et puis j'aurais dû aussi ajouter les aspects récursifs, mutuellement récursifs. Le problème, c'est que en fait, la plupart des mécanismes de haut niveau, ce qu'on veut vraiment montrer aux programmeurs, restent mal compris. Il y a eu, dans les années 90, toute une série de papiers essayant d'expliquer la programmation objet et par classe en termes de, justement, de lambda, de il existe et de pour tout. Et je crois que ça a fini par converger sur un codage qui est d'une extrême complexité, qui fonctionne, mais qui est quand même extrêmement complexe. Et de même pour les modules de standard ML ou de CAML, avec les foncteurs et tout, bon, on arrive à en rendre compte, en gros, dans Fomega avec quelques extensions, mais c'est pénible et non naturel. Et donc, il y a une espèce de rupture entre ce qu'on montre aux programmeurs dans les langages et puis ce qu'on est vraiment capable de formaliser en termes de théorie des types et de query award. Bon. Puis par ailleurs, ces mécanismes de haut niveau sont souvent insuffisants aussi, à mon avis. Et là aussi, on peut trouver mieux. Voilà, donc c'est les éléments de réponse que m'inspire cette question. Est-ce que query award fait de moi un meilleur programmeur ? Et je vous laisse réfléchir et commenter d'ailleurs. Et après, donc n'hésitez pas poser d'autres questions et à lancer la discussion dans d'autres directions aussi.
La question, effectivement, c'est ce qu'on peut rapprocher d'un côté la démonstration automatique, donc c'est de la recherche de preuves pour un énoncé, pour une proposition donnée, et la synthèse de programme de l'autre. Alors, oui, sur des cas simples. Essentiellement, oui, quand la spécification du programme qu'on recherche, qu'on cherche à synthétiser, est un type. D'accord. Et donc ça peut se produire dans deux cas. Alors, soit on est dans une théorie des types suffisamment riche, on est dans Coq, par exemple, où là, effectivement, on peut exprimer une spécification assez fine, soit, en fait, on cherche quelque chose d'assez simple. Et l'exemple que j'ai en tête, c'est, par exemple, pour les classes de type de Haskell, les type classes, ou un peu l'équivalent ou le codage qu'on trouve dans Scala, dans le langage Scala à ce propos, c'est essentiellement on a un trou, d'accord, on a besoin de synthétiser, je sais pas, on a une fonction qui a besoin d'une classe d'égalité, qui a besoin d'une égalité, d'accord, et puis on lui passe deux arguments de type t, et donc il faut synthétiser un terme de type égalité de t. D'accord, à partir des différentes classes de types qui sont déjà disponibles. Alors, en général, ce n'est pas très difficile, hein, il suffit d'appliquer différentes classes les unes sur les autres, mais donc c'est déjà un exemple de synthèse de programme et qui est complètement dirigé par le type, et donc qui est vraiment l'équivalent d'une preuve triviale de ce que la tactique auto fait en Coq, par exemple. D'accord. Donc là, on a, je pense, un début de convergence. Alors là où ça diverge sérieusement, alors d'un côté, enfin, je connais pas très très bien les travaux en synthèse de programme, mais il faut voir, ça diffère beaucoup sur comment le programme est spécifié. D'accord. Donc, est-ce qu'il est spécifié, par exemple, dans les travaux de super-optimisation, où il s'agit de synthétiser la séquence d'instructions la plus courte et la plus efficace qui calcule une certaine fonction, en fait, la fonction, elle est déjà donnée, en C, en Java ou en mathématiques, d'accord. Et en fait, ce qu'on cherche vraiment à synthétiser, c'est un programme équivalent, mais beaucoup plus rapide. Donc là, le problème, c'est pas tant de satisfaire une spec que plutôt de trouver quelque chose d'équivalent à. De même, souvent, dans les synthèses de programme, la spec, c'est juste une collection d'exemples aussi, d'accord. Pourquoi pas, hein, c'est... Donc ça, c'est pour le côté synthèse. Et après, du côté démonstration automatique, j'ai l'impression aussi que souvent les démonstrations obtenues par démonstration automatique sont énormes, ne sont pas du tout minimales, ne sont pas du tout élégantes. Et du coup, si on regarde le terme qui correspond, il est horrible. D'accord. Et on n'a pas envie de prendre ça comme programme. Alors, je crois horrible encore plus, mais ça, il faudrait, si on a des spécialistes de, je ne sais pas s'il y a des spécialistes de démonstration automatique dans la salle, non, Damien est parti. Mais, par exemple, j'ai cru comprendre que beaucoup de prouveurs automatiques commencent par mettre le but dans une forme normale disjonctive, ou, etc., ou en remettant, ou sous la forme négative, enfin, il faut toujours prouver une contradiction. Ce qui déjà peut aussi augmenter pas mal la taille du truc, et puis après, travaille là-dessus. Donc si, en termes de programme, ça veut dire qu'on va obtenir quelque chose qui est déjà plus ou moins en CPS, en forme CPS, etc., etc., et qui est sans doute aussi beaucoup plus gros que ce qu'on voudrait avoir, ou même que ce qu'on obtient en Coq, avec les termes de preuve et les tactiques. Bon. Mais encore une fois, je pense que ça ne peut que s'améliorer. Il y a 10 ans, je crois, aucun démonstrateur automatique ne produisait de termes de preuve, élégant ou pas. Hein, aucun ne le produisait. Et ça commence à arriver, d'accord, dans l'idée qu'au moins on va pouvoir revérifier les démonstrations. Donc ça progresse quand même.
J'ai peut-être un autre élément de réponse, mais donc il y a des travaux par Adam Shipala au MIT. Donc ça s'appelle Fiat, où ils utilisent. Alors c'est pas vraiment. Ils utilisent donc Coq, et en particulier le système de tactique de Coq, donc le moteur de preuve de Coq, pour synthétiser des programmes automatiquement. Donc c'est l'idée qu'il y a derrière Fiat. Bon, je ne connais pas les détails, mais je sais que ça existe et je sais que c'est un peu le but.
Et les specs, ouais. C'est...
Bah, les specs sont écrits en Coq, oui. Enfin, voilà.
Oui, je voudrais vous poser une question tout à fait naïve, parce que je suis philosophe et pas informaticien. Dans la correspondance de Julian Ward, est-ce que ça se fait, est-ce qu'il y a un ordre chronologique? C'est-à-dire, est-ce que des programmeurs commencent par mettre au point un programme, et puis ensuite, quand on a un programme qui est à peu près valable, les logiciens s'en emparent pour dire que c'est de la logique du deuxième ordre, de telle chose, etc. Ou est-ce que ça se fait parfois dans les deux sens?
Alors, historiquement, là, c'est peut-être Thierry qui pourrait répondre mieux que moi. Historiquement, j'ai l'impression que c'est les logiciens qui ont commencé. Ce sont les logiciens qui ont commencé à vraiment vouloir une fondation des mathématiques qui soit différente, enfin qui ne soit pas la théorie des ensembles, qui ne soit pas les systèmes formels à la Hilbert, mais ne serait-ce que les intuitions de l'intuitionnisme déjà, donc cette idée que, ou au moins l'interprétation BHK de l'intuitionnisme, cette idée que derrière une proposition logique qui est vraie, il devrait y avoir une espèce de calcul qui la justifie. À partir de 1970, le ping-pong, c'est là que la partie de ping-pong commence. Par exemple, le polymorphisme, donc, qui est découvert essentiellement indépendamment par Jean-Yves Girard pour faire de la logique, pour le quantificateur pour tout, et puis par John Reynolds, pour parler d'abstraction, de structure de données abstraites. Et alors aujourd'hui, je ne sais pas en fait comment on joue la partie de ping-pong. Peut-être Thierry, tu peux compléter.
Non, je pense que c'est une très bonne réponse. Maintenant, la partie de ping-pong continue. Et c'est intéressant quand ça va justement dans les deux sens. Et il y a des nouvelles idées qui naissent, qui sont une synthèse de programmation et logique, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le domaine.
Je vais profiter, là, qu'il y a le micro à côté.
Très bonne initiative.
Tu as dit qu'un langage de programmation, il doit y avoir un noyau fonctionnel et puis tout faire à partir de ça. Alors, Coq, il ne me semble pas respecter ça. Moi, il me semble qu'il y a des effets de bord quand tu fais des démonstrations et
oui.
L'environnement. et là, je ne vois côté fonctionnel.
Alors, effectivement, non, là tu... Enfin, donc, quand je parle de Coq, je parle du langage de spécification, là, ce que les gens bien élevés appellent Galina.
Et est-ce qu'il y a un espoir quelconque que la démonstration
après,
suive ton principe?
Donc, ce dont parle Jean-Jacques, c'est le langage de tactique, en fait. C'est le langage qui aide à construire les termes de preuve et qui, lui, est relativement impératif, effectivement. Il y a des variables d'unification qui représentent des trous dans la démonstration et puis qu'on peut préciser ensuite. Donc, effectivement... Alors, beaucoup impératif, je ne sais pas. C'est peut-être une expérience qui a mal tourné. Je pense qu'à l'origine, il voulait faire une espèce de prologue. Et puis, bon, ça a un petit peu dérapé ensuite, parce que quand même en prologue aussi, on veut généralement contrôler dans quel sens on fait les instanciations et pas explorer absolument l'ensemble de toutes les possibilités et tout et tout. Bon, d'où du backtrack, mais contrôlé par l'utilisateur et des choses comme ça. Alors, je sais qu'il y a, il y a plusieurs projets pour justement remplacer le langage de tactique par quelque chose qui soit plus fonctionnel, qui puisse même peut-être être inclus, encodé dans Coq lui-même. Je pense au MTAC, par exemple, où essentiellement c'est une monade pour construire des termes de preuve dans un style beaucoup plus fonctionnel. La dernière chose peut-être que je peux dire pour défendre Coq, c'est aussi que c'est quand même des preuves interactives. D'accord. Or, l'interaction, on sort forcément d'un cadre purement fonctionnel. D'accord. C'est, autant en HOL, par exemple, l'idée, c'est qu'on écrit des petits programmes qui sont les termes de preuve, puis on les fait typer, puis si ça passe, c'est bon, puis si ça passe pas, on réessaye. Le côté complètement interactif qu'il y a en Coq, et relativement interactif aussi qu'il y a en AGDA, je pense, te donne forcément cette impression que c'est de l'impératif, j'ai dit interactif tout à l'heure. Oui, donc le côté interactif de l'utilisation te donne aussi l'impression que c'est impératif, c'est une recette de cuisine, que tu es en train de cuisiner ta preuve. Voilà. Je ne sais pas si des gens de Coq veulent commenter sur tout le mal que je viens de dire de leur système. Non. Bon. Ça restera entre nous.
J'ai une question, réflexion par rapport à la finitude.
Oui.
Si on s'intéressait à une notion de calculabilité, démonstrabilité, valeur de vérité, mais en tenant compte du fait qu'on vit dans un univers qui a des ressources finies. Mmh. Et donc, du coup, après, on pourrait prendre des tout petits univers qui aient des toutes petites ressources pour commencer à travailler ça, parce que on peut même pas énumérer, on peut pas stocker un nombre aléatoire de puissance 10 000 bits. On peut pas.
Oui.
Bon, je pense que l'univers est fini. Bon, ça, c'est une théorie, non. Donc, il pourrait y avoir, par exemple, des théories qui sont incohérentes, mais dans lesquelles on ne pourrait pas prouver de façon finie l'incohérence, et donc leur incohérence serait inaccessible, et donc ce qui est calculable et ce qui est prouvable a un sens, puisque tout n'est pas vrai dans ce monde-là. Bon, du coup, donc quand on fait des preuves de calculabilité, d'estimabilité, on raisonne quand même toujours comme si les machines qu'on utilise, on n'a pas de limite. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les programmes qui se terminent, finalement, un programme qui boucle, à un moment, on arrête. Et donc, si on tient compte du fait que le programmeur arrête, on ne fait qu'exécuter des programmes finis qui terminent.
C'est exact.
Bon, alors, c'est un peu flou, ça, mais non, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup.
Alors, ça, c'est des idées, effectivement, qui m'intéressent également. C'est vrai que on peut dire que ne pas terminer ou terminer en un temps extrêmement long, ça ne fait pas de différence en pratique. Et c'est vrai que, et je crois que c'est pour cette raison qu'il faut aussi penser aller au-delà de juste des systèmes de type ou des logiques qui garantissent la terminaison, et s'intéresser aussi à des systèmes de type et des logiques qui garantissent, par exemple, des complexités asymptotiques. Alors ça existe un peu en logique, ça s'appelle la complexité implicite, je crois, même si c'est relativement grossier. Mais bon, on a des logiques dont l'équivalent par Curie-Howard ne permet d'écrire que des fonctions en temps polynomial, par exemple. Alors après, franchement, une fonction en temps n puissance 1000, bon, c'est polynomial, mais enfin, c'est presque comme si elle ne terminait pas. Donc on a des logiques comme ça, et puis il y a aussi des raffinements de logique de programme, plus logique de OR, logique de séparation, qui permettent vraiment de prouver des résultats fins, comme cette fonction en O de n log n, par exemple. Voilà. Mais c'est vrai que du point de vue programmation, pour un programmeur, savoir si un calcul termine ou pas, c'est une question qui est un peu académique parfois. Et ce qu'on voudrait savoir, c'est que ça termine en un temps raisonnable. Bon. Du côté de la logique, encore une fois, je suis moins à l'aise pour répondre, mais il semble qu'une des énormes forces de la logique, c'est de pouvoir décrire en très peu de symboles des choses infinies, et même des infinis gigantesques, d'accord, pas juste les entiers, mais les réels, et puis etc. etc. Oui, c'est ce que disait Thierry, d'ailleurs, à propos de la règle de démonstration du pour-tout. Comment raisonner par un raisonnement finitaire, démontrer quelque chose qui est vrai pour une infinité de x. Et ça, c'est vraiment une des très grandes forces, je pense, de la logique. Après, c'est aussi un point. Brouwer et son intuitionnisme. Brouwer acceptait l'infini des entiers. Il y avait des réticences vis-à-vis des infinis plus grands. Ce qui l'a amené, lui et son école, à développer, par exemple, une théorie des réels intuitionnistes, où il y a beaucoup moins de réels que dans les réels classiques. Alors, on peut dire, d'un côté, il y a beaucoup trop de choses dans les réels classiques. C'est ce que disait Alexandre Michel dans son exposé, d'accord. On peut rajouter des réels de Cohen qui ont des propriétés arbitraires, on peut en rajouter un nombre gigantesque, et puis finalement, ça ne change rien. Ce qui montre que dans les réels, on ne connaît qu'une toute petite partie des réels. Et donc, peut-être, en fait, on n'a pas besoin de tous ces réels-là. Mais d'un autre côté, les réels intuitionnistes à la Brouwer sont extrêmement pauvres, je crois. Enfin, il y a quand même peut-être Thierry peut commenter, il y a plein, je ne sais pas, toutes les fonctions sont continues, par exemple. Enfin, il y a énormément de propriétés intéressantes de l'analyse qui sont plus vraies, et du coup, les mathématiciens disent que ce n'est pas une analyse intéressante. Donc voilà, donc je pense en logique, c'est sans doute encore plus difficile qu'en programmation de régler le curseur entre des logiques qui permettent de parler d'infini complètement fou, qui contiennent des choses qu'on n'arrive même pas à concevoir, et puis des logiques qui essentiellement nous permettent de parler de choses dénombrables, et puis c'est tout.
Oui, mais si on regarde le forcing, finalement, dans le métamodèle, on est dénombrable, et donc comme ça, on maîtrise tout, et on parle de choses où il y a des cardinaux inaccessibles, et même autant de cardinaux qu'on veut entre le dénombrable et le continu.
C'est vrai,
donc,
c'est troublant.
En fait, on ne parle pas de la même chose.
Non.
Et du coup, je m'intéressais à calculer, quand on est dans un monde fini et qu'on parle de choses finies, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, c'est peut-être plus difficile de parler de ça que justement de parler de l'infini.
Possible.
Parce qu'on a des bornes.
Alors, effectivement,
bornes.
C'est possible. Parce que oui, ce que montrent ces modèles dénombrables de la théorie des ensembles, effectivement, c'est qu'on peut, avec un petit nombre de choses, parler d'infini gigantesque, de la même manière que, oui, avec des formules mathématiques finies, on peut aussi définir des choses gigantesques. Donc c'est vrai que peut-être ne pas parler de l'infini est plus difficile encore que d'en parler de manière générale.
Une chose qui me paraît très intéressante, c'est, moi je découvre, enfin je le vois d'un œil complètement différent d'un autre domaine, mais c'est cette notion d'observable dans les programmes. Et en fait, c'est la clé, je pense. Donc on a des relations au-dessus qui permettent de traiter de l'infini grâce à ces observables. Donc c'est de l'algèbre d'opérateurs et des choses comme ça.
Ah, une question au fond.
Bonjour, merci. Je reviens sur une question assez générale. Aujourd'hui, quand on parle des évolutions potentielles de l'informatique, on parle d'informatique quantique, d'architecture post-von Neumann, de mathématiques bayésiennes, tout un autre univers. Et je voulais savoir si les logiciens et donc les programmeurs, selon Currie Howard, avaient encore quelque chose à dire, quelque chose à faire dans cette informatique alternative, quoi.
Oui, alors c'est une excellente question, en particulier pour les gens qui font de la théorie des langages de programmation et de la vérification de programme comme moi. Je vais essayer de construire une réponse, ça va être un peu improvisé. Hein. Je séparerai assez clairement calcul quantique d'un côté et puis apprentissage statistique de l'autre. Donc parlons déjà du calcul quantique. Alors, en toute première approximation, c'est un problème d'algorithmique. Parce que on sait que ça calcule les mêmes fonctions au sens de la calculabilité usuelle qu'une machine de Turing. Alors après, ça triche un peu, donc ça calcule les mêmes fonctions classiques, donc les mêmes fonctions déterministes qu'une machine de Turing. Bien sûr, un ordinateur quantique a aussi accès à du vrai aléa, hein, du vrai aléatoire qui ne peut être qu'approché par une machine de Turing. Donc si on veut calculer avec des distributions, par exemple, c'est plus la même chose. Clairement, on calcule plus de choses avec un ordinateur quantique. Bon, mais donc, à première vue, c'est effectivement, ça ne va pas trop changer l'expressivité. Après, il y a évidemment certains problèmes où l'efficacité algorithmique, on a des algorithmes qui peuvent être beaucoup plus efficaces, et puis d'autres où on a essentiellement une accélération par racine de n, donc ça c'est l'algorithme Grower, et puis d'autres où on ne sait même pas s'il y a une accélération. D'accord, donc là, il y a plein de questions, mais c'est plutôt sur les classes de complexité, voilà, aussi. Et puis, alors, au niveau de la programmation, il y a eu bien sûr des tentatives pour penser hein, des langages de programmation quantique. On a l'impression que c'est une extension relativement modeste en fait de langages de programmation fonctionnels. Et c'est vrai que le problème se pose pas encore trop en ces termes parce que les calculateurs quantiques qu'on envisage aujourd'hui, c'est des machines non programmables. D'accord, c'est des machines dont on câble l'algorithme qu'on veut exécuter. La programmabilité viendra plus tard. Voilà. Alors maintenant, si plutôt du côté apprentissage, donc ça, effectivement, ça change assez radicalement les choses, parce qu'on a, des programmes qui ne sont plus écrits, qui sont plutôt appris, inférés à partir d'une collection d'exemples. Et puis, souvent, on n'a pas vraiment de spécification pour ce qu'ils sont censés faire. D'accord, donc on ne peut même pas dire que c'est de la synthèse de programme au sens de ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, dans le meilleur des cas, voilà, soyons positifs. Dans le meilleur des cas, c'est de la synthèse de programme, comme on disait tout à l'heure, avec des méthodes statistiques, d'optimisation statistique. D'ailleurs, il y a le cours de Stéphane Mala qui a lieu en parallèle dans l'amphi en face, et qui peut faire des progrès considérables. Donc sur ces questions de super-optimisation, par exemple, à l'origine, dans les années 80, c'était on énumère toutes les séquences de 3 ou 4 instructions, et puis on les teste pour voir lesquelles calculent ce qu'on veut. Et maintenant, on arrive, par optimisation stochastique, à faire engendrer des séquences de 30, 50 instructions, par exemple, qui font des calculs non triviaux et qui, généralement, battent ce que les compilateurs peuvent produire. Donc, il y a cette chose. Donc effectivement, quand on a une spécification relativement précise de ce qu'on cherche à obtenir par apprentissage statistique, je pense qu'il y a pas mal de techniques qui restent applicables. En particulier, alors il y a du travail bien sûr. C'est quoi par exemple une bonne technique de vérification formelle d'un réseau de neurones profonds par exemple qu'on a obtenu par apprentissage? On commence à voir apparaître des choses, des espèces de variantes de model checking qui justement exploitent la nature du réseau de neurones profonds, donc des fonctions linéaires des parties linéaires et des discontinuités, ce qui donne des zones de programme à explorer par model checking. La difficulté, là aussi, c'est un peu comme les termes de preuve là, dont on parlait tout à l'heure. La difficulté, c'est que souvent les objets obtenus par apprentissage statistique sont loin d'être minimaux. D'accord, ils sont même très gros et très redondants. Et du coup, appliquer des techniques de vérification manuelles ou pas très automatiques dessus, ça va devenir difficile. Mais voilà. Et puis, à la fin, il y a aussi tous les problèmes où il n'y a essentiellement pas de spec. Et là je suis un peu effaré. Quoi. Alors, c'est quoi une bonne classification d'image? C'est quoi une bonne reconnaissance de la parole? Bon, a priori, on fait des essais, on voit. C'est quoi une bonne conduite automatique d'une voiture dans les rues de Paris? Là, j'aimerais avoir une spec formelle, d'accord? Et on n'en a pas. Donc, voilà. Et effectivement, pour moi, c'est une des grandes inquiétudes, ou interrogations, et peut-être même inquiétudes, sur le logiciel du futur, enfin, le logiciel d'aujourd'hui et du futur. Encore une question? Oui.
Et après, on va écrire donc une structure qui va être son implémentation. Mmh. Moi, j'ai un problème pratique, c'est qu'à un moment donné, tout ce que je voudrais coller sur la signature que j'ai oublié de coller dans la structure, dans l'implémentation, ça n'est pas dans la théorie, ça n'est pas dans cette signature. Alors, est-ce que c'est un choix de conception, c'est un héritage, et est-ce qu'on peut faire autrement pour garder ce qui est nécessaire?
Alors, donc, ce qui n'est pas dans la signature, mais que vous aimeriez voir dans la signature, c'est par exemple des propriétés logiques, des invariants.
Oui, toutes sortes de prédicats d'invariants que je voulais de décrire dans mon en dur ou d'une autre façon dans la structure.
Oui, alors ça, c'est clairement une faiblesse du langage CAMEL, qui vient essentiellement du fait que le typage de CAMEL est assez simple, d'accord, et n'a pas la puissance d'un vérificateur de preuves. Du coup, effectivement, dans la signature, on peut juste mettre des types CAMEL qui sont relativement pauvres. Et du coup, les propriétés plus fines, donc tout ce qui est, je sais pas, des invariants numériques, le fait que votre arbre binaire est équilibré, par exemple, soit c'est sous forme de commentaires, soit c'est sous forme d'assertion à runtime, mais dans l'implémentation. Alors, comment est-ce qu'on peut faire mieux? Il y a plusieurs directions. Donc, il y a la direction que prend Koch, où dans la signature, on écrit les fonctions et leurs types, mais on peut aussi tout à fait écrire des théorèmes qu'elles doivent vérifier. D'accord? Et en fait, et du coup, l'implémentation, elle doit fournir des preuves pour ces théorèmes. C'est très Curie-Howard, encore une fois. Donc, si on a un système de type suffisamment riche, on peut tout à fait, dans la signature, déclarer des fonctions ou des valeurs supplémentaires qui, en fait, sont des propriétés logiques. La variante aussi, on peut aussi, parce que en coq on peut tout faire, on peut aussi utiliser des types riches. Donc la fonction, elle va avoir un type dépendant. C'est pas juste liste de int flèche liste de a flèche a option par exemple pour la recherche dans une liste, mais ça va plutôt être une liste de a et de longueur n et un entier inférieur ou égal à n et ça me donne du a par exemple. Voilà, donc les deux possibilités sont ouvertes grâce à la théorie des types, grâce à ces types riches, qu'on n'a pas en CAML. Alors, pour des raisons historiques, pour des raisons pragmatiques, parce qu'effectivement, le vérificateur de type de CAML est beaucoup plus simple, parce qu'on veut faire de l'inférence de type, et on veut qu'elle soit complète, alors qu'en coq, bon, il y a un peu d'inférence de type, mais ce n'est pas le but principal. Et puis aussi, j'ai dû l'écrire quelque part, parce que si on écrit des termes de preuve en CAML dans la structure, ben on voudrait au moins être sûr qu'ils terminent et qu'ils sont purs. Donc on voudra aussi distinguer dans CAML un sous-langage pur et total, pour, ne serait-ce que pour écrire ces termes de preuve. Voilà. Mais donc, je crois qu'il n'y a pas d'impossibilité fondamentale, et justement des langages, enfin coq vu comme un langage, ou AGDA, vont très très loin dans la direction que vous mentionnez. C'est juste Coq ou Haskell, d'ailleurs, qui sont restés un peu en retard.
Peut-être un complément, estimez-vous que des gens qui sont d'un niveau, enfin vraiment, qui parlent couramment en CAML, ou au CAML, aujourd'hui, quel serait l'effort à consentir pour devenir un programmeur plus mathématicien, mm-hmm. donc qui fasse du Coq, voire un peu des choses au-dessus ou à côté?
D'accord. Alors, bon, mon expérience, c'est que c'est quand même un peu douloureux. Hein, le temps d'apprentissage est significatif. Mais je pense quand même que des outils comme Coq ou autres sont, comment dire, sont quand même des facilitateurs. Ce sont quand même des outils qui donnent envie aux informaticiens de refaire des maths ou de faire plus de maths parce qu'à la fin, ça ressemble quand même à de la programmation, puis il y a ce petit côté jeu vidéo aussi quand on est à la recherche d'une preuve et tout. Et moi, j'ai vu des étudiants qui étaient, des doctorants qui étaient vraiment pas à l'aise avec leur capacité à faire des maths, donc qui n'avaient pas fait le cursus standard, classe prépa, etc. Donc qui n'étaient pas très à l'aise avec leur capacité à faire des démonstrations sur papier, et qui justement trouvent que, ben, en coq, d'accord, c'est laborieux, mais on est sûr de ne pas se tromper. Quand l'outil dit oui, c'est, la preuve est correcte. On peut essayer autant de fois qu'on veut. D'accord, Coq ne gronde pas, contrairement à un enseignant ou à un directeur de thèse. Coq est d'une infinie patience. Et puis, au bout d'un moment, effectivement, on se rend compte que c'est programmé, mais autrement. Donc on retrouve aussi des intuitions de programmeur. Je vais décomposer mon problème comme ci et comme ça. Là, je vais essayer peut-être, l'équivalent de mettre une assertion en plus dans un programme. Donc là, je vais essayer en renforçant un peu la condition, voir si ça change quelque chose, etc. Donc pour moi, c'est vraiment Coq est un outil qui réconcilie, et les assistants de preuve en général sont des outils qui réconcilient les informaticiens avec les maths. Après, alors c'est vrai qu'il y a un investissement en temps. C'est vrai aussi, alors moi j'avais beaucoup souffert, mais à l'époque il y avait aussi très très peu de matériaux pédagogiques. Et ça a fait d'énormes progrès. Il y a par exemple le cours en ligne de Benjamin Pierce, Software Foundations, qui est très très progressif. Celui d'Alain Chipala qui est un peu moins progressif. Mais donc voilà, il y a quand même des matériaux pédagogiques, et ce n'est pas juste des livres, d'accord, c'est aussi des. Essentiellement de l'apprentissage par l'exemple et interactif. Et ça, je pense que ça aide quand même. Et je ne peux que vous encourager, alors si dans la salle, il y a des gens qui n'ont jamais essayé de faire une preuve en Coq ou d'écrire un programme avec des types riches en AGDA, je ne peux que vous encourager à essayer. C'est une expérience. Voilà. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions pressantes, si, allez, petite dernière, et puis on va arrêter après.
Donc, merci pour le cours, et je trouve ça vraiment passionnant. Quelle est la propagation de ces idées-là dans les cursus?
Ah, donc oui, quelle est la propagation de ces idées dans les cursus d'enseignement? Ça, c'est une question difficile, Parce que c'est vrai que c'est rarement abordé avant le master, soyons francs. Hein. Et ce qui est sans doute un peu dommage. Bon, justement, le cours Software Foundations dont je parlais de Benjamin Pierce, je crois qu'il avait, il visait explicitement des undergrads. Bon, enfin, des undergrads de bon niveau quand même. Hein, mais c'est comme à peu près tous les cours de Benjamin Pierce, c'est à cheval entre master et graduate et honors undergrad. Après, je pense que... Alors, il pourrait y avoir une influence peut-être plus méthodologique, justement. Alors déjà, voilà, le fait que certaines universités enseignent Camel ou Haskell comme parmi les premiers langages, donc en L1 ou en L2, je pense que c'est déjà un premier pas dans cette direction. Après, c'est le cas de la minorité, d'une minorité d'universités, hein, c'est... Il y a presque même un recul, je pense qu'il y a eu une certaine mode de l'enseignement en langage fonctionnel dans les années 2000. Puis là, on revient un petit peu en arrière pour faire des choses peut-être un peu plus pratiques avec du Python, etc. C'est bien aussi, d'accord. Après, la question, c'est dans quel ordre on enseigne les choses et les concepts. Voilà, donc, oui, alors le rêve, enfin, pardon, le rêve. En poussant les choses jusqu'au bout, on enseignerait les maths en théorie des types dès l'école primaire. Comme moi, on m'a enseigné la théorie des ensembles dès l'école primaire. On dessinait des diagrammes de Venn avec des pommes et des oranges. Après, je ne sais pas si ça a tellement influencé ma génération de... d'élèves. Bon, mais je pense pas qu'on en arrivera jusque-là. Loin de là. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout.